Bonsoir, comment allez-vous ? Un jour, je payais mon café en petite monnaie. Le garçon, qui était d'ailleurs un homme et même d'un certain âge, me dit « Vous avez chanté ?» en ramassant la ferraille. Avant, les chansons ne sortaient pas de nos smartphones. Elles résonnaient dans les cours d'immeubles et dans les rues, où de vrais chanteurs envoyaient à plein poumon les succès du moment. Les habitants leur jetaient alors des pièces. Ces artistes n'étaient pas payés par virement, mais en monnaie sonnante et trébuchante. Trébuchante ne vient pas de rebondir, mais du trébucher, qui est une petite balance de précision. Cette époque est révolue. On raconte cependant qu'une soprano bien vivante, mondialement célèbre, demande à se faire payer une partie de son faramineux cachet en billets de banque qu'elle roule et se cale entre ses deux seins généreux. Voici les charmes, c'est le cas de le dire, de l'argent liquide. La Norvège, qui projetterait de se passer de cash d'ici 2020, n'y est apparemment pas sensible. La France fait partie des pays européens qui utilisent moyennement pièces et billets, avec seulement 55% des transactions payées en espèces, contre 89% en Italie. Quoi qu'il en soit, ça va être difficile d'éliminer jusqu'à la dernière de nos petites pièces.
Bonjour, je m'appelle Élise et j'ai 9 ans. Et je voudrais savoir en quelle date sont apparues les premières pièces de monnaie. Merci.
Ulysse, quel beau prénom. À quelle date sont apparues les premières pièces de monnaie? C'est bien pour un Ulysse, c'est un historien qui va te répondre. Historien, collectionneur, et tu t'en doutes, Ulysse, numismate. À quelle date sont apparues les premières pièces de monnaie? Bruno Collin.
Les premières pièces de monnaie, il y a deux traditions en matière de monnaie métallique. En fait, les plus anciennes pièces de monnaie qu'on connaît aujourd'hui sont des pièces chinoises.
Ah bon ?
Qui ont été frappées, enfin, qui ont été, non pas frappées, mais utilisées, oui. 1500 ans, grosso modo, avant Jésus-Christ. Sauf que je dis bien utilisées et pas frappées, parce qu'à l'époque, ces monnaies chinoises étaient en fait des coquillages.
Ah.
Ce sont des kauris, ce qu'on appelle également porcelaine, qui sont des petits coquillages qu'on trouve dans les eaux chaudes, en particulier dans les mers de Chine,
mm-hmm.
et qui servaient de monnaie. Pourquoi ils servaient de monnaie ? Parce que c'était des coquillages qui étaient parfaitement calibrés, toujours à peu près de même constitution et de même poids. Donc, c'était très pratique comme utilisation. Et en plus, on pouvait les percer et en faire des filières qui correspondraient de nos jours à des liasses de billets, si vous voulez.
Oui.
On pouvait les stocker facilement, on pouvait les transporter facilement. Et donc, ça servait de monnaie d'échange. Et 1500 ans avant Jésus-Christ, on a trouvé dans des tombes d'empereurs chinois des stocks de leurs trésors, de ces coquillages. La tradition occidentale, elle est différente puisqu'elle est beaucoup plus récente, même si elle est quand même assez ancienne, puisqu'elle est du 7e siècle avant Jésus-Christ. Puisque c'est donc en Turquie, enfin aujourd'hui la Turquie en Anatolie, dans la région de Lydie, que le roi Crésus, donc un nom qui est resté bien
dans
les mémoires, a fait frapper les premières monnaies à partir de métal précieux, qui était un métal naturel composé d'or et d'argent, ne savait pas séparer l'or et l'argent, qui était dans les alluvions du fleuve qui traversait son royaume, et le fleuve s'appelait le Pactole, donc vous voyez... une grande tradition mythologique. Et donc, ces premières monnaies étaient des tout petits globules de métal et qui servaient ensuite à échanger. Et comme ça a eu rapidement un succès, ça s'est rapidement répandu tout autour de la Méditerranée.
Mais dites-moi, Bruno Collin, quand la monnaie était un coquillage, et si on trouvait le même coquillage, si on trouvait l'équivalent coquillage d'un billet de 500 euros sur la plage, c'était pratique?
Alors oui, mais en fait, ces coquillages étaient très courants, mais en fait, on les trouvait surtout dans la région des îles Maldives. Donc, il y avait une zone de production qui était quand même très limitée, ce qui effectivement évitait la banalisation.
Merci Bruno Collin. Nous serons dans les petits bateaux ce soir. Comment peut-être modifier la voix humaine, voix V-O-I-X? Quant à la voix V-O-I-E, nous verrons grâce à la question de Jérémy si les panneaux routiers sont semblables dans le monde entier et comment font les oiseaux pour ne pas se percuter quand ils volent en groupe.
Bonjour, je m'appelle Mathilde et j'ai 8 ans et je voudrais savoir qui a inventé le Tour de France. Merci, au revoir.
Qui a inventé le Tour de France? Demande Mathilde, Georges Vigarello.
Mais ma chère Mathilde, ça dépend ce que l'on entend par Tour de France. Est-ce que tu entends par Tour de France la course cycliste? Ou est-ce que tu entends par Tour de France autre chose? Il y a plusieurs Tours de France. Il y a le Tour de France des Rois, par exemple, et en particulier celui qui a été effectué par Catherine de Médicis pour montrer ses 3 fils à la France entière, en faisant un peu le tour comme ça de l'hexagone français, en longeant la mer, en longeant les montagnes, etc. Donc ça, c'est un premier tour. Il y a un autre tour que l'on a oublié, mais qui était très important, qui est le tour des compagnons, ceux qui se forment à leur métier en faisant le tour de France pour confronter ce qui se fait dans les diverses régions de la France. Et puis, il y a, je suppose que c'était ça ta question, il y a le Tour de France inventé par Desgrange, qui était le directeur du journal qui s'appelle L'Auto, et qui a le premier suggéré en 1903, donc au tout début du 20e siècle, suggéré à des cyclistes que lui-même finançait grâce à son journal, de faire le Tour de France. Alors ça, c'est passionnant, parce qu'en fait, Desgranges, c'est l'inventeur du sport, dans une certaine mesure, professionnel, moderne. Que proposait-il à ses coureurs? Il proposait, bien sûr, de les financer. Mais il proposait aussi de parler d'eux dans son journal, et de parler d'eux tous les jours, étape après étape. Donc, qu'est-ce qu'attendait Henri Desgranges? Il attendait que son journal se vende mieux, bien sûr. Donc, c'est le premier instaurateur, en quelque sorte, d'un sport professionnel qui bénéficie à d'autres, pas seulement aux coureurs, mais qui bénéficie aux journalistes et qui bénéficie au journal. Et de fait, Desgranges avait un journal qui se vendait à environ 10 000, 20 000 exemplaires dans les années 1900 et qui, brusquement, l'été 1903, s'est vendu à 60 000 exemplaires. Et Desgranges a eu un résultat extraordinaire parce qu'ensuite, c'est en termes de millions d'exemplaires qu'il a vendu son journal dans les années 20. Donc tu vois, l'invention du Tour de France, c'est une invention qui s'inspire d'une tradition, qui propose au public français le fait de faire circuler quelque chose qui est quand même de l'ordre d'une véritable entreprise, d'une véritable représentation de l'industrie française, le vélo, et qui sert des journalistes. Et puis, il faut dire une dernière chose, 1903. Eh bien, c'est pas par hasard que le Tour de France s'invente en 1903. Il fallait que la bicyclette ait été inventée. Elle est inventée en 1890. Mais il fallait aussi que les routes soient circulables. Et il fallait enfin que des engins puissent suivre les cyclistes. Il fallait des voitures. Donc le Tour de France suppose un contexte. Et c'est ça qui est vraiment très intéressant. C'est que le sport renvoie finalement aussi à l'existence d'un contexte autour de lui. En même temps, il faut aussi qu'on donne des nouvelles. Donc il faut qu'il y ait du téléphone. Tu vois, c'est très compliqué. Et c'est en même temps passionnant. Parce qu'on voit comment un sport suggère finalement l'existence d'un milieu qui l'entoure et d'un contexte.
C'est extraordinaire, on s'en douterait pas. En fait, le Tour de France est l'enfant du commerce et de la technologie.
Oui, exactement. Commerce et de la technologie, mais aussi du réseau. Il faut sortir des terroirs. C'est ça qui fait exister le Tour de France.
Georges Vigarello est directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales. Il a écrit, entre autres, « Les liaisons dangereuses de la médecine et du sport » édité chez Glyph. Let them fall.
Brothers and sisters, you never miss your water till your well runs dry, till your well runs dry. Brothers and sisters, so let the teardrops fall, for what you have done, fall, hurting so many people, you have no mercy.
Let them fall, let them fall,
let them fall from your eyes. You're all alone, and you have no one to call your own. You're taking up your telephone, begging me to come home. But listen, my friend, I'll never make that mistake again, 'cause you don't need me as a friend. So let the teardrops fall. To call your own, you're taking up your telephone, begging me to come home. But listen, my friend, I'll never make that mistake again, 'cause you don't want me as a friend. So let the teardrops fall, let them fall,
for
what you have done. Yeah.
Ken Booth. C'est dansant, hein? Et c'est charmant. Et oui, c'est du reggae.
Les petits bateaux sur France Inter.
Il y a quelque temps, nous avons appris aux petits bateaux que changer de fil pour une automobile fait nettement ralentir le trafic. Pourtant, nous le faisons, et pour gagner du temps en plus. Les oiseaux seraient-ils beaucoup plus intelligents que nous?
Bonjour, je m'appelle Pierre, j'ai 5 fois 10 ans, et je voudrais savoir pourquoi, lorsque les hirondelles volent dans le ciel, quand il y a un gros paquet d'hirondelles dans le ciel, pourquoi jamais elles se percutent? Et ça fait au moins 4 fois 10 ans que je me pose cette question. Merci.
Je m'appelle Kevin, j'ai 8 ans, je voudrais savoir pourquoi les oiseaux, lorsqu'ils volent ensemble, en grand nombre, ne se touchent-ils pas? Merci, au revoir.
Guilhem Le Saffre, vous avez souhaité réunir ces deux questions, celle de Pierre, ça fait 40 ans qu'il se demande pourquoi effectivement elles ne se percutent pas, et Kaline se demande la même chose, effectivement.
Voilà, alors il était temps de répondre à l'interrogation de Pierre quand même. Moi, ça fait 40 ans que j'observe les oiseaux, et un peu plus même d'ailleurs. Il m'est arrivé une fois de voir deux oiseaux se percuter en plein vol. Bon, ils ne se sont pas blessés, hein, mais c'était assez amusant. J'aurais rêvé pouvoir filmer cette scène. Oui, mais ces deux oiseaux, qui étaient deux mouettes, se sont percutés en vol. Elles avaient l'air assez surprises. Là aussi, c'est une question extrêmement simple, finalement, mais qui a intrigué les chercheurs ces dernières années. Et ils sont arrivés à la conclusion suivante. Chaque oiseau est capable de repérer les mouvements de 7 de ses voisins. Hein, c'est une moyenne naturellement. Mais dans un grand vol des tourneaux, par exemple, chaque oiseau est capable de repérer dans les 3 dimensions ce que font ses 7 voisins immédiats. Et comme la vision des oiseaux et leur cerveau pour traiter ce qu'ils arrivent à voir est extrêmement, ce sont des caractéristiques extrêmement performantes, ça leur permet de réagir à la fraction de seconde près pour justement modifier leur trajectoire par rapport à celle des autres. Et chaque oiseau du groupe fait exactement la même chose, ce qui fait qu'au bout du compte, personne ne se percute. Alors finalement, quand on regarde peut-être du haut de l'Arc de Triomphe, la place de l'Étoile...
Je pensais à ça pendant que vous parliez.
Ben, on se rend compte qu'il n'y a pas tellement d'accrochages. Il y en a quand même quelques-uns. Mais il n'y en a quand même pas autant qu'il pourrait y en avoir. C'est parce que tout simplement, comme le font les oiseaux, les conducteurs, sont extrêmement attentifs à ce que font les autres.
Oui, mais alors Guilhem Le Saffre, c'est drôle que vous parliez de la place de l'Étoile, actuellement place Charles de Gaulle. C'est que j'ai l'impression qu'on n'a pas cette voiture. Moi, j'ai pas cette voiture.
Non, les oiseaux n'ont pas la même perception de leur environnement que nous. Nous ne percevons pas exactement les choses de la même manière, et surtout, nous ne les percevons pas avec cette extrême rapidité.
Ouais.
Cette rapidité, elle se comprend très facilement quand on regarde les hirondelles chasser, par exemple. Être capable d'attraper un moustique quand on vole à 60 à l'heure, ça demande une coordination de la vitesse, de la vue, de l'ouverture du bec, tout à fait prodigieuse. Et c'est ce qui permet de mieux comprendre pourquoi ces oiseaux peuvent éviter les collisions en vol.
Les livres de Guilhem Le Saffre seront sur le site des petits bateaux. Je vous cite quand même parce que c'est tellement beau. Les oiseaux enchanteurs, et c'est édité chez Rustica. Bon, voler dans le ciel, nous l'avons compris, demande une grande organisation. Guilhem Le Saffre l'a évoqué. Se déplacer en voiture sur Terre demande aussi de l'organisation.
Je m'appelle Jérémy et j'ai 8 ans. J'aimerais savoir s'il existe des panneaux routiers qui sont les mêmes dans tout le monde entier.
Super idée, Jérémy. Nous l'avons proposé à Jacques Nouvier. Jacques Nouvier est l'auteur de la signalisation routière en France de 1946 à nos jours. Et c'est édité chez AMC Éditions. Alors, existe-t-il des panneaux routiers qui sont les mêmes dans le monde entier, Jacques Nouvier?
Alors, la question est vraiment excellente, mais la réponse est non, à quelques exceptions près. En fait, il y a deux grands systèmes de signalisation dans le monde.
Ouais.
Il y a un premier système qui est un système qu'on dit américain, qui se trouve presque partout en Amérique, Amérique du Nord, Amérique centrale, Amérique du Sud, avec un certain nombre de variantes, mais qui se trouve aussi au Japon, en Australie, etc.
Mmh.
Et puis un second système, c'est celui que Jérémy connaît, qui existe en France, c'est le système dit de la Convention de Vienne, du nom d'une convention internationale qui s'est tenue dans la capitale autrichienne en 1968. Alors, ce système-là, il a été adopté par la plupart des pays européens et africains, mais aussi par la Russie, la Chine, certains autres pays asiatiques, en tout une quarantaine de pays, même un petit peu plus. Et donc, il n'y a pas de troisième système. Mais quand même, comme je suis honnête, je vous dirais que Eh bien, il y a des pays comme l'Irlande, par exemple, qui ont adopté une sorte de mixte entre les deux systèmes.
Entre le système américain et le système européen-africain.
Absolument. L'Irlande n'est pas un cas isolé, mais enfin, je l'ai cité parce qu'il est proche de chez nous. Alors, c'est bien dommage que tous les efforts pour arriver à un système unique n'aient pas pu aboutir, en particulier en 1949, où il y a eu une conférence qui s'est penchée là-dessus. Et on a écrit alors, les systèmes devraient être harmonisés par partie du monde. Et on voit qu'on même ça, on n'y est pas arrivé. Alors, puisqu'il y a deux grands systèmes, ça veut dire que les panneaux, ils ne sont pas les mêmes.
D'accord.
Par contre, ce qu'il faut voir, c'est quelles sont les différences entre les deux systèmes. Je vais vous prendre, par exemple, le cas des panneaux de danger, qui indiquent, par exemple, une descente rapide ou un virage, etc. Eh bien, le système américain prévoit ce qu'on appelle des diamonds, c'est-à-dire des losanges à fond jaune.
Ouais.
Et puis, le système Convention de Vienne, qu'on connaît chez nous, il prévoit des triangles pointant haut, donc à fond clair, et donc avec un listel, une bordure, si vous voulez, rouge. Et puis, à l'intérieur du panneau, donc il y a un dessin, par exemple le dessin du virage, et dans les deux systèmes, il arrive qu'il soit un peu pareil. Donc, qu'on puisse quand même arriver à reconnaître un petit peu d'un système à l'autre.
Donc, aux États-Unis, on dessine un virage en faisant un virage. En France, on dessine un virage en faisant un virage. Mais c'est le cadre qui diffère.
Voilà, exactement. Et puis, quand même, aux États-Unis, on indique des tas de choses de manière littérale. C'est-à-dire qu'on va dire qu'il faut pas rentrer ici où la vitesse est limitée à temps, alors que nous, on va plutôt adopter un graphisme. Vous voyez ?
Alors, est-ce qu'il y a des panneaux quand même qu'on retrouve partout, comme le sens interdit ou le stop ?
Alors, le stop, c'est un des rares panneaux qu'on retrouve partout dans le monde.
Ah,
le mot stop est parfois écrit dans la langue du pays.
Ah.
En revanche, la forme qui est octogonale et la couleur rouge sont à peu près uniques dans le paysage mondial.
Donc, les panneaux ne sont pas les mêmes dans le monde entier, pour répondre à Jérémy, excepté le stop, le sens interdit, on a dit non ?
Non. Le sens interdit, aux États-Unis, on ne dit pas sens interdit, on dit qu'on ne peut pas rentrer là. C'est la logique qui est même différente.
C'est intéressant, ça parle graphique, la logique.
Voilà, absolument.
Jacques Nouvier est président du groupe de l'OCDE sur la gestion de la vitesse. Ah ça, la façon de conduire des Irlandais, c'est très particulier. Déjà, ils conduisent à gauche. Et à la campagne, ils ont des routes absolument sublimes de beauté, très étroites, sur lesquelles ils vont à toute berzingue. Sauf quand il y a un mouton. Là, on s'arrête. Pendant combien de temps ? Pendant que mouton passe. Et puis on ne va pas le stresser surtout. On attend qu'il passe. Et puis s'il y a un deuxième mouton, ben on attend jusqu'à ce que mouton passe. Et quand il ne s'arrête pas pour un mouton, il s'arrête pour un autre Irlandais qui croise. Il y en a pas mal les Irlandais sur les routes en Irlande. Et à ce moment-là, on s'arrête à nouveau et on discute. Jusqu'à quand ? Ben jusqu'à ce qu'on ait fini de discuter. Paradis perdu. C'était Christine and the Queen sur France Inter où vous avez la bonne idée d'écouter les petits bateaux. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, il y a eu une grande époque des blagues au téléphone. Moi, j'en ai fait quelques-unes qui n'étaient pas forcément très fines d'ailleurs. Le grand spécialiste, c'est l'humoriste Jean-Yves Lafesse. Ses impostures ne sont pas toujours très fines non plus, mais franchement, certaines sont vraiment drôles. Il est très fort dans son jeu, dans l'idée du canular, dans la façon de changer sa voix. Et ça marche!
Bonjour, je m'appelle Jeanne, j'ai 8 ans et je voudrais savoir pourquoi les grands-parents, oncles et tantes ne reconnaissent pas toujours notre voix quand on les appelle au téléphone et qu'ils la confondent avec celle de nos frères et sœurs. Merci pour votre réponse.
Merci pour la clarté et la précision de cette question. Docteur Jean Habitbol, donc Jeanne parle de ses grands-parents et des oncles et tantes qui ne reconnaissent pas toujours les voix au téléphone des enfants.
Ils savent que c'est la même famille, c'est ce qu'elle dit.
Oui, c'est vrai.
Mais ils ne savent pas si c'est
l'un ou l'autre.
Et ça, c'est avant la puberté. Avant que la voix se soit habillée des hormones mâles pour l'homme, des hormones femelles pour la femme. Pour quelle raison ? C'est que la voix d'enfant, n'ayant pas cette imprégnation d'hormones, reste une voix d'enfant dont la signature est très souvent génétique et très souvent familiale. Il y a une osmose. Mon frère et ma sœur, on a les mêmes mots ou presque. Je vais parler comme eux. J'ai le même accent. Mais comme il n'y a pas de disparité, c'est-à-dire de changement de voix avant l'âge de 9-10 ans, ceci est délicat. Mais je vais aller plus loin dans ta question. Le téléphone, on ne te voit pas. Donc, le regard n'habille pas ta voix. Et puis, deuxièmement, dans le téléphone, c'est un peu complexe, mais essaye de me suivre. Il y a ce qu'on appelle une bande passante. C'est-à-dire que ton téléphone ne va pas reproduire ta voix dans toutes les harmonies de ta voix. Parce que quand tu parles, évidemment, on entend 200 Hz, c'est-à-dire un certain niveau de notes. Mais on entend également tous les harmoniques qui sont dessus. 400, 600 Hz. 1200 Hz ou bien 100 Hz qui sont ce qu'on appelle la vibration d'autres éléments de ton corps. Mais la bande passante du téléphone, elle va effacer les extrêmes.
Ah,
donc on va attendre que le médium. Et ce médium, que ce soit tes grands-parents ou pas, ça peut être trompeur pour la personne qui est au bout du fil, même si c'est un ami à toi.
Et dites-moi, vous qui êtes donc chirurgien, qui êtes phoniatre, qui êtes ORL, oui. Vous avez certainement soigné des gens de la même famille.
Oui.
Est-ce que leurs cordes vocales se ressemblent ?
C'est une belle question. On va aller plus loin, beaucoup plus loin dans votre question. Les jumeaux, que se passe-t-il ? Je parle des vrais jumeaux, bien sûr. Eh bien, ils ont les mêmes cordes vocales. Ils ont la même vibration. Ils ont les mêmes pathologies. M'est arrivé d'opérer un polype chez un jumeau. L'un et l'autre, ils avaient la même chose. Mais ce qui est impressionnant, c'est qu'à partir de 35-40 ans, si l'un habite New York, l'autre habite Pékin, donc dans deux villes différentes, quelque part, les cicatrices de la vie, les cicatrices de l'environnement culturel, les cicatrices de l'écoute des autres, va petit à petit transformer cette voix en gardant le fondamental, c'est-à-dire la base de la voix. Mais on va commencer à voir qu'il y a une différence dans cette voix de ces jumeaux qui n'existaient pas avant quand ils habitaient l'un à côté de l'autre dans la même ville.
C'est intéressant l'évolution des voix, on les voit, c'est le cas de le dire, quand on entend des chanteurs qui ont un certain âge et qui reprennent des chansons qu'ils ont chantées quand ils étaient plus jeunes, on entend bien à ce moment-là les modifications de leur voix. Jean Habitbol est médecin, vous l'avez compris, il a écrit « Le pouvoir de la voix » édité chez Alary. Les dimanches ne se suivent pas et se ressemblent. Non, ne cherchez pas à comprendre, c'est juste pour vous dire que ce numéro des Petits Bateaux était une rediffusion du dimanche 26 mars 2017. De toute façon, pour la fusion, la diffusion et la rediffusion des Petits Bateaux, vous avez tout sur notre site par franceinter.fr. Marjorie Devoucoux, Jean-Baptiste Audibert, Noël Bréham, nous vous donnons donc rendez-vous dimanche prochain à 19h30. Bon, j'espère que je vous ai tout dit. Ah mais non, j'ai oublié de vous dire que le répondeur était fermé jusqu'à la rentrée. Allez, ce coup-ci, j'y suis, j'ai plus qu'à passer le flambeau à Denis Chessou pour la tulu, mon petit loup.